Vas-y.
Bien, alors l'esprit du monde, c'est quelque chose que l'on peut parfois ressentir dans une conversation, dans un débat, des personnes qui débattent entre elles, ou dans le comportement de certaines personnes qui peut créer en nous un sentiment de malaise. Mais c'est aussi quelque chose qui peut nous concerner directement, qui peut nous envahir, qui peut s'insinuer dans notre esprit. Alors, le thème de ce soir est un thème qui s'adresse un petit peu à la conscience. J'espère que ça ne sera pas trop moralisateur, voire même inquisiteur. Enfin, nous sommes là pour nous encourager les uns les autres à la vigilance. Et je vais essayer de le faire dans cet état d'esprit et de le faire avec humilité. Alors, avant de vous montrer mon plan, je veux définir deux termes. D'abord, le terme monde. Bon, il est évident que dans la Bible, le mot monde peut avoir des sens différents, hein, selon les passages. Alors, dans le Nouveau Testament, c'est toujours cosmos, mais avec des significations qui varient selon les passages. Par exemple, quand on lit dans le psaume 89, alors ça c'est dans l'Ancien Testament, mais peu importe, à toi les cieux et à toi la terre, le monde. Et tout ce qu'il contient, toi tu l'as fondé. On comprend bien que là, il s'agit de la terre ou de l'univers. Hein. Et donc c'est quelque chose qui est totalement aimable, bien sûr. La nature, elle a été créée par Dieu, elle est aimable. Ensuite, quand on lit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde, on comprend bien que c'est un autre sens. Il s'agit ici de l'humanité, l'ensemble des humains. Dieu a aimé l'ensemble des humains et il a donné son Fils pour les sauver. Donc ce monde-là, également, nous devons l'aimer. Nous devons aimer l'humanité, aimer tous les hommes. Et puis, il y a un troisième sens qu'on pourrait qualifier de péjoratif, que l'on trouve par exemple dans Jean 15. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Alors là, c'est autre chose. C'est un système de pensée, ou bien c'est la société qui rejette Dieu, qui rejette le Seigneur Jésus et qui rejette Dieu. Et ce monde-là, évidemment, nous devons nous en prendre des distances avec lui et nous devons veiller à ne pas être influencés par lui. L'esprit du monde, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais citer un passage dans lequel le mot esprit ne figure pas, mais c'est quand même l'idée, manifestement. C'est donc 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, à savoir trois choses, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde s'en va et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc on voit là trois choses qui sont dans le monde. C'est ce que j'appelle ce soir l'esprit du monde, l'état d'esprit, la mentalité, des modes de pensée ou encore des ressorts qui vont animer inévitablement ceux qui ont rejeté Dieu. On peut dire aussi des motivations qui vont animer ceux qui ont rejeté Dieu. Alors, il y a la convoitise de la chair, autrement dit, toujours plus de plaisir, et je vous propose de l'appeler ce soir en simplifiant un peu l'hédonisme. Deuxièmement, la convoitise des yeux, toujours plus de possession, posséder ce que l'on voit. Je vais appeler ça le matérialisme. Et puis troisièmement, l'orgueil de la vie, toujours plus haut, au-dessus des autres. Je vais l'appeler le carriérisme. On pourrait l'appeler aussi l'ambition démesurée. Le principe commun à ces trois choses, c'est l'égoïsme. Évidemment, si Dieu n'est pas au centre de ma vie, c'est le moi qui va occuper la première place. Et mes pensées vont être au service de l'épanouissement démesuré de ce moi. Donc voici mon plan. Nous allons étudier ces trois thèmes de l'hédonisme, du matérialisme et du carriérisme. Si vous préférez, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. En se demandant à chaque fois de quoi s'agit-il et comment est-ce que nous pouvons vivre autrement. Alors on commence par l'hédonisme. Qu'est-ce que c'est que l'hédonisme? Ne nous y trompons pas, attention, ce n'est pas le plaisir lui-même qui est en cause ici, le plaisir est légitime, hein, on lit dans l'Ecclésiaste, au jour du bien-être, jouis du bien-être. On lit même au chapitre 9, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vanité. Donc le plaisir en lui-même est quelque chose de légitime. Mais ce qui fait partie de l'esprit du monde, c'est lorsque le plaisir est élevé en valeur suprême. Et on en trouve une description dans Philippiens chapitre 3, car plusieurs marchent, dont je vous ai dit souvent et dont maintenant je le dis en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix du Christ, dont la fin est la perdition, dont le Dieu est le ventre, et dont la gloire est dans leur honte, qui ont leur pensée aux choses terrestres. Vous voyez, ces personnes ont fait de leur ventre, c'est-à-dire le siège de la satisfaction, hein, du plaisir, on peut dire, le centre de leur vie. Et donc, ils sont ennemis de la croix du Christ, parce que la croix du Christ, c'est être capable de renoncer par amour. Eux, ils sont dans la recherche effrénée du plaisir personnel. Alors, l'hédonisme, ce mot est souvent utilisé aujourd'hui, on peut le définir comme la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance, qui constitue le but de l'existence humaine. C'est comme ça que cet homme Aristippe de Cyrène de l'Antiquité le définissait déjà 400 avant Jésus-Christ. On peut dire que c'est quelque chose qui est lié à l'athéisme. Michel Onfray, qui est un peu le porte-parole des athées dans les médias aujourd'hui, se définit bien de la manière suivante. Je suis un athée de culture chrétienne quand même, il dit ça hein, parce qu'il aime bien les valeurs chrétiennes, et de mode de vie hédoniste. Donc, ça se comprend assez. Lorsqu'on est athée, on croit qu'il n'y a pas de Dieu. On croit aussi qu'il n'y a rien après la mort. À partir de là, eh bien, il n'y a plus qu'à profiter de la vie présente au maximum. Et c'est ce que décrit 1 Corinthiens 15 également. Quel profit ai-je si les morts ne ressuscitent pas, hein, dans l'optique d'une vie qui s'arrête au moment de la mort? Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Voilà une définition, si on veut, biblique de l'hédonisme. Alors, ne soyons pas trop critiques, l'hédonisme en soi se défend d'être égoïste. Nicolas de Champfort, que Onfray cite assez souvent, dit la chose suivante, « Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi ni à personne, voilà, je crois, toute la morale. » Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez sympathique, je dirais, puisqu'on voit bien que l'autre est pris en compte. Le plaisir de l'autre, ça compte aussi. Mais dans la pratique, est-ce que c'est possible de jouir soi-même et de toujours préserver la jouissance de l'autre? C'est quand même quelque chose de difficile parce que quelquefois les deux ne sont pas compatibles. Je donne cet exemple de la Sulamite dans le Cantique des Cantiques. Bon, elle s'est couchée, elle est bien installée dans son lit et voilà que le bien-aimé frappe à la porte. Et il dit ceci, « Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est pleine de rosée, mes boucles des gouttes de la nuit. » Et voilà, voilà ce qu'elle répond, parce qu'elle se dit, « Je me suis dépouillée de ma tunique, comment la revêtirai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? » Vous voyez l'hésitation qui se produit en elle, entre rechercher finalement le confort de son bien-aimé, qui est urgent, il a besoin d'elle, ou préserver le sien. Et je pense qu'on voit là la limite de l'hédonisme. À un moment donné, s'il n'y a pas un renoncement, le plaisir de l'autre est compromis. Et c'est là que l'hédonisme n'est pas compatible, pour moi, avec la foi chrétienne. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, bien sûr. On a cité la définition très ancienne. À la même époque, il y avait également Épicure qui a donné les Épicuriens. Hein, on les retrouve dans le livre des Actes, les Épicuriens. Alors, eux n'étaient pas à proprement parler des hédonistes, ils recherchaient plutôt le bonheur. C'est quelque chose d'un peu plus élargi, le bonheur, par rapport à la jouissance. Le bonheur était le but ultime de tout. Et puis, on connaît cette phrase célèbre de Horace, « Carpe diem, profite du jour d'aujourd'hui, du jour présent, de l'instant présent, qui lui était un Romain. » Donc, on voit que dans l'Antiquité, cette idée de l'hédonisme ou de l'épicurisme était assez présente. Et c'est donc quelque chose qui est très en vogue aujourd'hui. Et que l'on entend assez souvent, des allusions à l'hédonisme dans un certain nombre de phrases que l'on entend un peu partout. « Il n'y a pas de mal à se faire du bien », par exemple. C'est typiquement un slogan hédoniste. « Il faut profiter de la vie ». On ne peut pas empêcher des jeunes de faire la fête. Vous savez, ces jeunes qui ont tendance à sortir un peu, à faire la fête sans mettre de masque, avec le problème du coronavirus. Bon, on dit bien que de toute façon, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas éviter. Donc, il faut essayer de canaliser, mais on ne pourra pas empêcher des jeunes de faire la fête. C'est bien normal. Ou bien ces collègues qui arrivent le lundi matin et qui vous racontent leur week-end en racontant un peu, on a fait une de ces teufs, on s'est bien éclaté, et puis ils vous racontent des détails de personnes qui étaient complètement bourrées, enfin ils sont assez fiers de raconter ça. Du coup, voilà. On s'est bien amusé, on a bien profité. Encore, l'important c'est de prendre du plaisir. On entend ça par exemple dans la bouche de sportifs de haut niveau, qui disent « tant que je prends du plaisir à jouer, je continue », vous voyez, même si je ne gagne pas forcément tous les matchs. Ou encore, un conjoint qui va dire « j'ai pas envie de me pourrir la vie ». Voilà, parce que vivre avec mon compagnon, ma compagne, ça devient invivable, c'est trop compliqué, alors je m'en vais, je claque la porte, j'ai pas envie de me pourrir la vie. Ou même dans l'éducation, on parle assez souvent du plaisir, l'enseignant doit susciter le plaisir d'apprendre. Alors bien sûr, c'est une bonne chose, hein. C'est mieux si les élèves apprennent en s'amusant, par exemple, mais il faut quand même être conscient qu'on ne va pas pouvoir tout inculquer avec des méthodes qui font intervenir le plaisir. Et puis, ça serait peut-être un petit peu mal préparer les enfants à la vie quotidienne, parce que ce n'est pas toujours une partie de plaisir dans le monde professionnel, par exemple. Ou encore, il y a cette vogue-là du numérique à l'école, l'utilisation du numérique, on nous dit, renouvelle le plaisir d'apprendre. Alors, faites du numérique avec les enfants, ça va mieux marcher, parce que ça va les motiver. Voilà, donc vous voyez, on est vraiment dans cet entretien, cette manière de favoriser le plaisir. Alors, qu'est-ce que ça peut être, l'hédonisme ? Donc, je définis par cela une recherche du plaisir excessive, hein, effrénée, qui dépasse le raisonnable. Ça peut être, par exemple, manger, boire, sans avoir faim ou soif. C'est-à-dire qu'on va manger ou boire uniquement pour le plaisir. Ou bien boire, fumer des choses pour obtenir des sensations. Il y a une différence entre boire un petit verre de vin rouge qui va rehausser le goût d'un aliment et puis boire deux verres de whisky pour planer un petit peu. Vous voyez, on est dans la recherche d'autre chose, du domaine beaucoup plus du plaisir. Ou encore, bien sûr, dans le sexe, là où il y a dérapage, c'est lorsque le sexe est sans engagement, ou bien il est en dehors du couple, donc c'est l'adultère, ou bien sans souci de l'autre, c'est-à-dire une personne qui va rechercher au sein du couple son plaisir personnel sans se soucier du plaisir de l'autre. Ou alors c'est le sexe quasiment sans véritable relation, sans aucune relation, sans amour, sans tendresse, donc la pornographie, bon, et puis les sex toys, voilà, excusez-moi de parler de ces choses, mais autant le dire, les plans cul, hein, c'est-à-dire des personnes qui, comme on dit, qui se rencontrent une fois juste pour le sexe et puis qui disparaissent. Mais encore, ça peut être aussi une manière de passer du temps à des activités de plaisir au-delà du raisonnable. Des bains ou des douches interminables, hein, où on n'est même plus là du tout pour se laver, on est là simplement pour passer de longs temps de détente interminable. Ou bien un temps libre qui est à 100% accaparé par les loisirs, les voyages et les sorties. Jamais occupé par un petit service à rendre à quelqu'un ou un petit projet à mettre en œuvre. Vous voyez, des activités un petit peu constructives, on se focalise uniquement sur les sources de plaisir. Ou bien toujours plus d'équipements ludiques à la maison, hein, jusqu'à épuiser le budget, des écrans toujours plus grands, des bouquets de télévision toujours plus multiples. Bon, et puis on passe de la piscine au jacuzzi, etc. Enfin, tous les équipements qui peuvent vous procurer du plaisir. On pourrait aller très loin. Le véhicule suréquipé, hein, qui fait que vous n'utilisez plus votre véhicule pour vous déplacer, mais pour passer un moment agréable. Vous voyez, là, on est quand même dans quelque chose qui prend où le plaisir prend une importance surdimensionnée. Mais ça peut arriver aussi dans la vie d'église. Pour moi, aller dans une église pour la seule raison qu'on y est bien, hein, ça c'est très à la mode de dire ça, ou que la musique y est bonne, et puis qu'on ne nous y demande rien, pour moi, c'est de l'hédonisme. Hein, c'est simplement, on va à l'église pour se faire du bien. Bon, il faut, bien sûr, c'est important qu'on y soit bien, mais on est là aussi pour apporter quand même quelque chose et puis pour construire ensemble. On est quand même d'accord. Ou alors, tout simplement, quelqu'un qui va toujours indiquer le même chant qu'il aime bien. Voilà. Il propose un chant pour se faire plaisir, finalement, parce qu'il l'aime bien. Ou bien des personnes qui vont écouter les chants, quitte à fermer les yeux, vous voyez, pour profiter au maximum, écouter les chants de louange, et qui ne vont jamais chanter, qui vont jamais s'investir personnellement dans la louange. Elles sont juste là pour profiter de l'instant. Ça, pour moi, c'est de l'hédonisme. Ou encore, dans les relations avec les personnes de notre Église, rester dans notre zone de confort, avec son cercle d'amis, c'est-à-dire au lieu d'aller vers les gens que l'on connaît un petit peu moins, ou bien à qui on pourrait rendre un petit service, qui aurait un peu besoin de nous connaître, toujours se réfugier dans sa petite zone de confort avec ses amis, de manière assez sécurisée, où on passe des bons moments ensemble parce qu'on s'apprécie. Ça, c'est quelque part, l'hédonisme dans les relations fraternelles. Voilà. Alors, je suis un peu caustique, hein, peut-être, mais il faut quand même réfléchir à tout ça. Sinon, on va être aspiré quand même par la course au plaisir. Ou alors, apprécier uniquement les prédicateurs qui font de l'humour en permanence. Vous voyez, c'est le one-man show, hein, c'est une blague, un éclat de rire, une blague, un éclat de rire. Attention, on n'est pas là non plus pour passer un moment de détente. Ou bien qu'ils ne disent que des choses lisses, hein, qui nous caressent la peau, qui nous flattent, qui nous déculpabilisent. Attention, tout ça pourrait devenir de l'hédonisme. Alors, comment nous, chrétiens, est-ce que nous allons comment dire, nous dépêtrer de cet hédonisme? Alors, bien sûr, attention, il ne s'agit pas de verser dans l'excès inverse, qui serait l'ascétisme, c'est-à-dire la fuite du plaisir, voire même le masochisme. Et en réalité, il est question de l'ascétisme dans l'Épître aux Colossiens, et Paul le considère comme une certaine forme d'hédonisme. C'est ça qui est surprenant. Quand il dit, ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Finalement, il peut y avoir un plaisir de se faire souffrir, une sorte de satisfaction à se faire souffrir. Donc attention à ne pas verser dans l'extrême inverse. Non, l'opposé de l'hédonisme, ce n'est pas l'ascétisme, c'est la sobriété. Mets-toi, sois sobre en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis pleinement ton service. Je trouve que ce verset est magnifique parce qu'il est... Il est assez complet. Voilà, au lieu de rechercher le plaisir, sois sobre en toute chose. Le chrétien se contente de peu de plaisir. Il n'est pas concentré là-dessus, mais il le cueille au passage. Et puis, endure les souffrances, c'est-à-dire, s'il le faut, tu vas payer le prix, hein, tu vas être un combattant. Donc, le chrétien n'évite pas la souffrance si elle est nécessaire, si elle est utile, si elle est constructive. C'est la combativité. Le chrétien est dans la combativité. Et puis, finalement, pourquoi il fait ça? Parce que son objectif n'est pas tourné vers lui-même, il est tourné vers les autres. Fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis pleinement ton service. Son objectif est ailleurs, il est dans l'avancement du royaume de Dieu. Et donc finalement, le chrétien est comme un sportif de haut niveau qui se doit d'être sobre et combatif. Comme ce coureur cycliste qui va boire une petite gorgée d'eau pour se rafraîchir, tout en regardant la route, vous voyez, il ne va pas s'arrêter dans un bar sur la terrasse pour boire deux ou trois coups avec des copains, hein, il n'est pas là pour ça, il se rafraîchit parce que c'est nécessaire et il reste concentré sur sa course parce que son but, ce n'est pas de se faire plaisir, c'est de remporter des victoires. C'est ça le but. Voilà des images qu'on espère voir dans quelques jours, hein, mais ce n'est pas gagné. Voilà. Mais voilà, le chrétien, il est dans cette optique d'une course à gagner. Et donc, il va se montrer sobre et il va se montrer combatif. Alors, je n'idéalise pas le sport de compétition, on va en reparler tout à l'heure, mais en tout cas, c'est une image que Paul utilise aussi. Hein, c'est une belle image. Il dit ceci, quiconque combat dans l'arène vit de régime en toutes choses, eux donc, afin de recevoir une couronne corruptible, mais nous, enfin, d'en recevoir une incorruptible. Vous voyez, celui qui combat dans l'arène, il vit de régime, il est sobre pour être en bonne forme, pour bien combattre. Et il me semble qu'on retrouve cette idée de la sobriété aussi en image dans les soldats que Gédéon a choisis, parce que les 300, parce que l'Éternel dit à Gédéon, par les 300 hommes qui ont lapé l'eau, je vous sauverai et je livrerai Madian en ta main. Alors il y a ceux qui ont lapé, hein, ils ont pris l'eau dans les mains, ils l'ont portée à leur bouche rapidement, puis il y a ceux qui ont plongé la tête dans l'eau. Et ceux qui ont plongé la tête dans l'eau, ils n'ont pas été pris. Vous voyez, ceux qui ont vraiment ont profité de ce moment pour profiter au maximum de la fraîcheur et qui se sont déconcentrés, n'ont pas été pris, alors que les autres, ils ont bu un petit peu à la sauvette en restant sur leur garde. Et c'est ceux-là qui sont sélectionnés. Donc, c'est l'image d'un chrétien sobre et qui est dans une optique de combativité et de victoire. Et finalement, ce qui change tout, c'est que, en fait, le chrétien trouve son bonheur ailleurs que dans son propre intérêt. Hein, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Finalement, le bonheur, il est dans le plaisir de l'autre. Et également aussi dans beaucoup plus l'accomplissement d'une mission que de profiter de la vie. Et je crois que ça, c'est quelque chose aussi d'essentiel dans la vie d'un chrétien. Est-ce que je suis là pour profiter ou est-ce que je suis sur terre? Est-ce que je réalise que je suis sur terre avec une mission ou des missions peut-être, qui vont être multiples et qui vont dépendre des moments de ma vie, des missions à accomplir pour la gloire de Dieu? Paul, il était vraiment dans ça. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, ni ne la tiens pour précieuse à moi-même, pourvu que j'achève ma course et le service que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Et il va achever cette course et il aura cette magnifique phrase dans la deuxième épître à Timothée, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. Voilà un petit peu les derniers mots d'un homme qui est satisfait parce qu'il a accompli sa mission. Ça, c'est la vraie satisfaction. Alors, on passe maintenant au matérialisme. Donc la convoitise des yeux. De quoi parlons-nous? Alors encore une fois, ici aussi, ne nous y trompons pas, ce n'est pas la richesse qui est un problème. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas le fait d'être riche qui peut être un problème. Puisque Paul s'adresse aux riches, enfin il parle à Timothée en disant, ordonne à ceux qui sont riches dans le présent siècle de devenir pauvres. Non, pas du tout, ce n'est pas ça qu'il dit. Qu'ils ne soient pas hautains, qu'ils ne mettent pas leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu qui donne toutes choses richement pour en jouir, qu'ils fassent du bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils soient prompts à donner, libéraux, s'amassant comme trésor, un bon fondement pour l'avenir, afin qu'ils saisissent ce qui est vraiment la vie. Magnifique verset aussi, hein. Donc, vous voyez, la richesse est légitime. Tout est dans la question de l'état d'esprit et de la manière dont on la gère. Et donc finalement, le problème, c'est quoi? C'est autre chose. C'est de vouloir absolument devenir riche. C'est ça qui est le problème. Même chapitre, quelques versets auparavant, il dit ceci. Or, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Le problème, c'est d'en vouloir toujours plus, car le cœur est attaché aux choses matérielles. C'est ça la convoitise des yeux. Alors le matérialisme, définition, on peut donner deux définitions, une philosophique et une sociologique. Bon, moi je vais surtout m'intéresser à la sociologique, définition un peu populaire, hein, on va dire, hein. C'est l'attitude de celui qui s'attache aux biens matériels, aux valeurs monétaires, aux plaisirs matériels. Alors bien sûr, derrière, il y a la pensée philosophique du matérialisme qui est que c'est une doctrine selon laquelle il n'existe d'autre substance que la matière. Voilà, être matérialiste au sens philosophique, c'est nier l'existence de l'esprit, finalement, du spirituel. Tout est matériel. Hein, tout est matériel et les vrais enjeux de la vie sont matériels. C'est pour ça que Karl Marx a dit que la religion était l'opium du peuple. Hein, la religion, elle endort les gens, elle les empêche de se battre pour les vrais enjeux qui, selon lui, sont uniquement matériels, puisqu'il n'y a que le matériel. Voilà. Alors c'est ça, le matérialisme, c'est lié forcément à l'athéisme. Quoique. Parce que, bien sûr, dans l'espérance juive, il y a un certain attachement aux choses matérielles, incontestablement. Quand on voit dans le Lévitique une sorte de contrat qui est passé entre Dieu et son peuple, Il dit ceci, si vous marchez dans mes statuts, si vous gardez mes commandements et les pratiquez, je vous donnerai vos pluies en leur temps, et la terre donnera son rapport, et l'arbre des champs donnera son fruit. Le temps du foulage atteindra pour vous la vendange, et la vendange atteindra les semailles, et vous mangerez votre pain à rassasiement, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Vous voyez, il y a une promesse de prospérité matérielle qui est faite à Israël s'il est fidèle. Donc, l'espérance d'Israël est en grande partie matérielle. Toutefois, on ne peut quand même pas dire que le juif est, totalement matérialiste, puisque tout ça est dans la relation avec Dieu, et la relation avec Dieu, quand même, est importante pour un juif. Hein. Donc, il y a une part de matériel, mais ce n'est quand même pas au centre de la relation avec Dieu. Sur le plan politique, on peut retrouver du matérialisme à droite comme à gauche. Hein, ne nous y trompons pas. À droite, bon, on va donner des idées de droite un petit peu. La course au profit, l'accumulation de patrimoine, ça, ce sont des choses qui sont favorisées par les politiques de droite. Tout ça, ça fait partie du matérialisme. Mais enfin, à gauche, il y a aussi la même idée dans l'autre sens. Il y a cet égalitarisme, hein, cette répartition des richesses. Donc, les enjeux sont concernent la richesse. Et puis, le combat pour le pouvoir d'achat. Ça, c'est plutôt des valeurs qui concernent la gauche. Donc, vous voyez, des deux côtés, on est vraiment concerné par les choses matérielles. Et puis, dans la société, tout ça est régulé par un équilibre entre la propriété et le partage. Alors, la propriété, c'est plutôt une idée de droite. Le droit de propriété protège le patrimoine. Et puis, le partage, c'est plutôt une idée de gauche. Le partage redistribue partiellement les richesses. Donc, vous voyez que les enjeux politiques sont quand même en grande partie matériels et matérialistes. Alors, qu'est-ce que ça peut être le matérialisme ou la convoitise des yeux dans notre vie? Eh bien, c'est par exemple choisir un travail uniquement parce qu'il paye, un métier. Ce n'est pas parce que j'aime ce métier et que je vais me sentir utile, mais je veux juste remplir mes poches. Ou bien travailler toujours plus aussi. Dans ce métier, je vais toujours en faire plus parce que je veux avoir des primes, etc., bon, gagner des marchés. Et donc, je travaille toujours plus pour gagner plus, quitte à mettre un peu de côté ma famille, ma vie spirituelle, etc. Hein. Ou bien, pour un patron, c'est exploiter ses salariés, en tirer le maximum pour accumuler pour lui un maximum de profit sans trop se soucier d'eux. Et puis du côté des salariés, c'est revendiquer sans cesse parce qu'on n'en a jamais assez, on en veut toujours plus, on veut des salaires plus élevés, on veut des acquis sociaux meilleurs, donc c'est revendiquer sans cesse au niveau matériel. Dans la famille, ça peut être ambitionner toujours une voiture toujours plus puissante, une maison plus grande, toujours plus grande, voir une femme plus belle, d'où, par comparaison, des jalousies qui vont naître entre les gens, des conflits, des rivalités, ou encore, bien sûr, le vol. Et puis, dans la gestion des finances, qu'est-ce que je fais de mon argent? Quelle est sa destination? Combien je donne? Combien je garde? Hein, voilà, alors ça dépend évidemment combien on gagne, mais ce qui est le plus important, c'est de comparer la part que l'on donne et la part que l'on garde. Et puis, combien de fois j'ai investi dans le superflu? Alors, on en a parlé un peu pour le plaisir, mais c'est aussi pour avoir plus de choses. Bon, ne serait-ce que le toit ouvrant d'une voiture. Alors, vous voyez, je cite ça parce que quand j'ai acheté ma 306 il y a 22 ans, d'ailleurs, je l'ai toujours, je me suis longtemps interrogé sur la légitimité de la prendre avec toit ouvrant. Vous voyez, j'hésitais. Bon, j'ai fini par la prendre avec toit ouvrant et je n'ai pas pris la clim. Vous voyez, il y a des petits superflus, quelquefois. C'est bien de réfléchir quand même, est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Ou est-ce que la petite différence de prix, je ne ferais pas mieux de la mettre ailleurs? Bon, la piscine, le 4x4, la résidence secondaire, alors on peut toujours enchaîner la course à des biens de moins en moins indispensables, ou bien le bien coup de cœur qui vous a fait craquer, que vous avez vu et que vous avez absolument voulu acheter parce qu'il vous le fallait absolument. Voilà, et qui va vous endetter durablement, ce qui fait que vous allez toujours être limite et que vous ne pourrez plus tellement aider les autres. Donc tout ça, ça fait partie de cette convoitise des yeux qui nous amène à acquérir de plus en plus de choses, parfois superflues. Dans la vie d'église, ça peut exister aussi, hein, des locaux d'église fastueux, hein, comme vous voyez cet intérieur de cette église. Bon, c'est vrai que c'est joli, enfin, moi je trouve que c'est un peu too much. Dans les pays pauvres, parfois, le fait d'être ministre du culte est un bon job. Donc on va faire carrière dans l'Église parce que ça paye. Ça peut exister malheureusement. Ou alors pour les fidèles, c'est l'évangile de la prospérité. On fait rêver aux gens qui vont être riches par la foi en Dieu. Ou encore la recherche de l'assistanat, des personnes qui vont un petit peu se coller à une église parce que elles ont besoin d'être aidées et elles essaient de trouver des personnes qui les aident. Bon, c'est quand même le rôle de l'église aussi. Enfin, il faut faire attention que parfois, ça ne soit pas un petit peu une forme d'assistanat. Voilà comment les considérations matérielles peuvent un petit peu s'infiltrer dans l'église. Alors, comment vivre autrement ? Là encore, bien sûr, le contraire de la convoitise des yeux, le contraire d'acquérir des richesses, c'est être généreux. Mais attention, encore une fois, il peut y avoir des fausses générosités. Il y a la générosité affichée, ça peut être quelque chose de faux. On le voit dans l'exemple de Ananias et Saphira, qui, avec sa femme, ont vendu une possession, et de connivence avec sa femme, il a mis de côté une partie du prix en apportant une partie et la met au pied des apôtres. Il garde la moitié, il ne le dit pas pour faire le généreux, il fait comme s'il avait tout donné, il en garde la moitié et il va être sévèrement puni. Donc attention, vous voyez, ça c'est pas la convoitise des yeux, c'est la générosité, mais c'est l'orgueil, donc c'est l'orgueil de la vie. Non, le contraire de la convoitise des yeux, eh bien, c'est tout simplement le contentement. J'ai appris, dit Paul, à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Je sais être abaissé, je sais être dans l'abondance, en toutes choses et à tous égards. Je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Voilà, la première chose à faire, c'est d'apprendre à se satisfaire de peu, apprendre à se satisfaire de ce que l'on a. C'est ce que j'appelle des ambitions personnelles limitées. Et l'Épître à Timothée nous donne le minimum vital, le minimum incompressible pour que nous soyons satisfaits. C'est « ayant de la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits ». Voilà, avoir de quoi manger pour nourrir sa famille, avoir des habits et une maison, ça c'est le minimum vital, on peut dire. À partir du moment où nous l'avons, alors je ne dis pas qu'on ne peut pas espérer un petit peu plus, mais en tout cas, il faut savoir être satisfait de ça et ne pas se plaindre quand on a de la nourriture et de quoi se couvrir. Et donc, le chrétien va être peu motivé pour tout ce qui lui permettrait d'avoir plus. Il va être d'une motivation syndicale faible. Hein. Et même Proverbe 24 nous dit « Mon fils, crains l'Éternel et le roi, ne te mêle pas avec les gens remuants. » Le chrétien ne va pas faire la tête du défilé. Même chose pour les patrons. Hein, bien sûr, il y a des choses pour les deux. « Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. » Le patron va être bienveillant envers ses salariés, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Voilà, le patron lui aussi est soucieux du bien-être de ses employés. Il ne pense pas simplement à s'en mettre plein les poches. Et puis, on peut aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Ne pas avoir la convoitise des yeux, c'est savoir aussi se détacher des choses et savoir se réjouir de la joie des autres. Comme ce jeune homme qui est invité au mariage d'un de ses amis, qui le voit heureux à côté de son épouse, cette jolie personne qui est à côté de lui. Bon, il ne la regarde pas avec désir. Hein. Il se dit simplement « je suis content pour lui ». Vous voyez, donc il y a une capacité de détachement. Il va le regarder finalement un petit peu comme un beau paysage ou comme si c'était sa sœur. Et il va s'approprier la joie de son ami. Voilà, je suis content pour lui. C'est ce que j'appelle le transfert. Il va transférer, il va participer à la joie de son ami. Alors ça, c'est une gymnastique un petit peu, mais c'est une belle gymnastique auquel le chrétien doit s'habituer à regarder les choses sans les désirer et aussi à se réjouir du bonheur des autres. Ça, c'est vraiment une belle gymnastique. Et puis le chrétien, il voit plus loin, bien sûr, parce qu'il sait que le passage sur terre, il est provisoire, bon, et il sait qu'on avance vers le ciel. Donc le Seigneur Jésus a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille gâtent, ici tout est fragile, hein, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Le chrétien, il voit plus loin, il voit en direction de l'éternité. Et nous passons maintenant à l'orgueil de la vie, ou si l'on veut, le carriérisme. Alors, de quoi parlons-nous ? Attention, là encore, pas de fausse idée, c'est pas que c'est pas bien d'être numéro un. Le problème, c'est pas d'être numéro un. Il faut des numéro un. Il faut parfois des numéro un chrétiens. Paul dit à Tite, annoncez ces choses, exhorte et reprends, avec toute autorité de commander, que personne ne te méprise. Voilà, c'est toi le numéro un, c'est toi le responsable, c'est toi qui prêches. Fais-le avec autorité. Donc, il faut assumer pleinement parfois la position du numéro un parce que c'est notre place, c'est notre tour. Voilà, maintenant c'est à toi d'être le numéro un, c'est ton rôle. Il faut l'assumer, il faut le faire comme il faut. Mais le problème, il est autre. C'est comme avec la richesse, hein. C'est pas d'être riche, c'est de vouloir devenir riche. Le problème, c'est de vouloir systématiquement être et à tout prix être le numéro un. Et ça, c'est le cas de Diotrephe, dans la troisième épître de Jean. J'ai écrit quelque chose à l'Assemblée, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. Voilà quelqu'un qui veut absolument la première place, et donc, résultat, il fait un petit peu le ménage autour de lui pour éliminer les concurrents potentiels. Alors, c'est là que je veux définir précisément l'orgueil de la vie par rapport à l'orgueil. Il faut distinguer un petit peu les deux choses, si je comprends bien. Bon, l'orgueil, c'est l'esprit de supériorité, la fierté, la suffisance. L'orgueil de la vie, donc, c'est par rapport au déroulement de la vie, je dirais, c'est la volonté de gravir les échelons pendant sa vie, de s'élever dans la société, de prendre de l'importance, de prendre de l'autorité, de prendre du pouvoir. Et peut-être que ce travers va toucher un petit peu plus les hommes que les femmes. Je vais prendre deux exemples. L'exemple d'un homme qui avait vraiment cette volonté de s'élever, c'est Corée. Hein, Corée s'éleva dans son esprit. Alors, il va prendre avec lui des alliés. Et puis, ils se levèrent devant Moïse. Ils vont essayer de rivaliser avec Moïse pour prendre l'autorité. Hein, il va être calife au-dessus du calife, si on veut. Hein. Alors ça, c'est assez masculin, cette course un petit peu au pouvoir. Et maintenant, un bel exemple d'une femme qui, justement, a fui la place de l'ascension sociale, on peut dire, c'est la femme de Sunem qui avait aidé Élisée. Et alors, il lui dit ceci, « Que puis-je faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ? Est-ce que je peux essayer de te trouver une place ?» Et je trouve sa réponse magnifique. Et elle dit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Voilà, je suis là avec mes voisins, avec mes amis, c'est ma place ici, j'ai mon rôle quotidien, je ne veux pas quitter ce lieu, je n'ai pas d'ambition, je veux simplement accomplir ma mission là où Dieu m'a placé. Et je trouve ça vraiment magnifique. Donc, quand on veut être au-dessus des autres, forcément, ça va entraîner des conflits et une recherche de l'élimination des rivaux. On le voit avec Adonija, hein, qui veut prendre la royauté, s'éleva disant « Moi, je serai roi !» Et il se procura des chars et des cavaliers. Voilà, quand on veut la place du numéro un, on se met en ordre de bataille. Et donc, d'où les conflits, d'où les colères, les violences. Et donc, c'est quand même un comportement assez masculin, tout ça. Hein, ça touche assez souvent l'homme. Alors, je l'analyserai de la manière suivante. L'homme a un besoin d'être reconnu. Ça, je dirais que c'est un besoin assez légitime. Hein. Et je crois que c'est pour ça que Paul dit « Femmes, soyez soumises à vos maris. Hein, donnez-lui la chance d'être reconnu, d'être le patron de quelque chose. » L'homme a un besoin d'être reconnu, mais quand ça devient démesuré, quand ça devient délirant, il passe par la violence, il va s'imposer. De la même manière, si je fais le corollaire avec la femme, je dirais que la femme a besoin d'être aimée, c'est pour ça que Paul dit aussi « Marie, aimez vos femmes », c'est un besoin de l'épouse, et c'est un cadeau que lui fait le mari, mais quand ça devient mesuré, elle passe par le chantage, vous voyez, c'est une autre méthode. Voilà un petit peu le dérapage que peuvent connaître les aspirations légitimes et normales de l'homme et de la femme. Alors, c'est quoi l'orgueil de la vie dans la vie quotidienne, et même plus que la vie quotidienne, puisqu'on va parler un petit peu de la politique. C'est un homme politique sans véritable conviction, sans véritable projet, sans véritable vision, si ce n'est d'être au sommet. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'être en haut. Alors, je pourrais citer des noms, hein, mais j'ai des noms, hein, mais je ne le dirai pas parce qu'on n'aurait peut-être pas tous les mêmes. Voilà, ça existe, malheureusement. Sur le plan de l'ambition professionnelle, c'est viser une ascension au-delà de ses talents avérés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas monter. Hein. Si on a les capacités et si c'est notre place d'avoir un rôle de direction, il faut le faire. Mais c'est viser une ascension à tout prix au-delà de ses capacités. Sur le plan sportif, artistique, c'est la recherche du végétariat. Alors, là, je pose une question, la question du sport de compétition. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui sert quand même l'orgueil personnel. On est loin de l'exercice corporel qui fait du bien au corps, on est dans autre chose. Alors, je sais qu'il y a des côtés pédagogiques, c'est une manière de montrer la combativité. Enfin, c'est pour les enfants, je trouve que c'est quand même assez éducatif de voir les efforts, de voir cette combativité. Je trouve que c'est une qualité, la combativité. Je serais plus à l'aise avec les sports collectifs parce qu'il y a un partage des émotions, des défaites, des victoires, des joies, des peines. Je trouve ça intéressant, un sens du corps, de l'esprit de corps. Dans le sport individuel, bon, c'est vrai qu'on voit souvent quand même des égos un peu surdimensionnés. Et puis il y a le végétariat sur le plan artistique. Voilà, je pense que c'est quelque chose que le chrétien ne doit pas trop chercher. Peut-être que les gens doués, ça peut leur arriver un peu malgré eux, mais ce n'est pas quelque chose que l'on va rechercher absolument. Je serai assez réservé sur ces choses. Dans la famille, ça peut être vouloir que ses enfants soient premiers de la classe, absolument. Ou qu'ils aient les premiers rôles, vous savez, dans une petite pièce de théâtre qu'on fait à l'école. Moi, je ne veux pas que mon enfant il joue le rôle du méchant ou de la servante. Ou que nos enfants fassent des grandes études. Hein, la fameuse phrase « Tu seras docteur, mon fils ». Bah oui, peut-être, mais peut-être pas. Si c'est ton chemin, si c'est tes capacités, oui, mais sinon, non, tu feras autre chose. Voilà. Ça peut mettre une pression parfois sur les enfants qui est destructrice. Hein. Donc attention à ne pas avoir trop d'ambition, on va dire, sociale pour nos enfants. Et puis, toujours dans cet esprit du monde, cet esprit de l'orgueil, de la vie, de vouloir se placer au-dessus des autres, je suis toujours mal à l'aise avec l'idée de se faire respecter. Je trouve que le respect, ça se mérite. Alors, évidemment, il y a des situations où on a affaire à des personnes qui ont une faible connaissance du bien et du mal. Il faut parfois se faire respecter. Un professeur, il a intérêt à se faire respecter par ses élèves parce que ses élèves sont en train de s'initier au bien et au mal. Ou alors des policiers avec des délinquants, il faut aussi savoir se faire respecter. Mais dans l'ensemble, dans les relations habituelles, j'aime bien l'idée que le respect, c'est quelque chose qui se gagne. C'est quelque chose qui se mérite. Il y a des personnes qui vont petit à petit, inspirer le respect par leur qualité. Dans la manière de débattre aussi, il peut y avoir l'orgueil de la vie ou pas. C'est-à-dire, soit il y a un vrai débat d'idées, un échange d'idées honnête, avec une volonté de faire avancer le débat et de tendre vers la vérité. Ça, c'est une belle manière de débattre. Et puis, il y a le débat honneur contre honneur, c'est-à-dire, je veux te mettre KO, je veux te détruire parce que je t'aime pas. Voilà, je veux te clouer le bec, je veux t'humilier. Vous voyez, ça, c'est typique. On assiste à des débats comme ça. Hein. Il y a des personnes, là aussi, je pourrais citer des noms. Hein. Il y a des personnes qui sont dans ça, vraiment, qui sont dans la recherche du chaos. Non, le chrétien, il ne va jamais débattre comme ça. Il est dans un échange d'idées constructif. Il n'est pas dans l'humiliation de celui qui est en face. Ou encore faire des leçons de morale aux inconnus. Vous voyez, comme si les gens étaient des enfants et vous des adultes. Ou bien chercher des amis dont la compagnie nous valorise, hein, des amis pour se rehausser, pas des amis pour les aider. Ou encore afficher sa réussite sur les réseaux sociaux, voilà, se mettre en valeur. Ou se raconter sans cesse, les gens qui vous racontent toujours ce qu'ils ont fait, en montrant bien qu'ils ont été super forts. Donc voyons, voilà, attention à toutes ces choses qui font partie de l'orgueil de la vie et qui pourraient s'infiltrer dans nos pensées. Et puis dans la vie d'église aussi, il peut y avoir de l'orgueil de la vie, avoir la plus belle église de la ville, ou la plus grande église de la ville, ou la plus haute, hein, tout simplement. Vous voyez cette image-là, c'est Vougeot-Court, dans le Doubs, près de Montbéliard. Alors vous avez à droite le temple et à gauche l'église. Et donc le temple a été construit en 1833, et puis 30 ans plus tard a été construite l'église catholique, ils se sont bien appliqués à la faire 2 mètres plus haut que le temple. Voilà. Également, se croire les meilleurs. Voilà, nous on est la meilleure dénomination, on est les meilleurs chrétiens, les plus fidèles. Les autres, ça ne vaut pas grand-chose. Ou bien au sein de l'Église, confisquer le leadership, vouloir absolument, comme Diotref, les premiers sièges, refuser la critique. Moi, on ne me critique pas. Ou bien encore faire de longues prières impressionnantes pour impressionner l'auditoire. Ou rechercher l'intervention sensationnelle. Vous savez, on entend quelquefois, j'ai rarement entendu, mais chaque fois que j'ai entendu, ça m'a vraiment beaucoup gêné. On sent qu'il y a une sorte d'escalade de surenchère à la petite phrase. Vous voyez, attention à ne pas rentrer dans ça, on est là pour être sérieux et pour être modeste. Ou encore développer un rapport vedette-groupie, c'est-à-dire le prédicateur qui est sans cesse en quête de signes d'approbation. C'est un échange, j'envoie une phrase, tout le monde dit « Amen »,« Oui, 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 à toi, à moi ». Attention, on sent qu'on fidélise les gens à soi-même, il ne faut vraiment pas rentrer dans ça. Ou encore juger, critiquer, être sans cesse dans la critique, dans le rejet. Ou encore ne pas s'engager, c'est-à-dire rester vraiment à l'écart parce que finalement, il n'y a rien d'assez bien pour nous. Donc, ne pas s'engager, c'est juger tout le monde. C'est comme dans le livre des Proverbes, celui qui se tient à l'écart conteste contre toute sagesse. Voilà, il est plus fort que tout le monde. Alors, comment nous, chrétiens, nous extraire de tout ça? Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas avoir d'ambition. Moi, je crois qu'il faut avoir des ambitions. Mais attention, il ne faut pas avoir n'importe quel genre d'ambition. Je dis oui aux ambitions collectives et aussi aux ambitions spirituelles. J'envoie une image dans cette démarche des fils des prophètes qui disent à Élisée, tu vois que le lieu où nous habitons devant toi est trop petit, trop étroit pour nous. L'Église est petite, on voudrait que ça prospère, que ça se développe. Allons, s'il te plaît, jusqu'au Jourdain et nous y prendrons chacun, vous voyez, c'est collectif, une pièce de bois et nous y bâtirons un lieu pour y habiter. Et il dit, allez. Élisée, type de crise, dit, allez, allez-y, oui, j'aime votre projet, j'aime votre ambition. Voilà, des ambitions collectives et des ambitions spirituelles, il faut en avoir. Et je dirais même, au niveau personnel, c'est pas déplacé d'avoir des ambitions personnelles mesurées. C'est tout simplement une application de la parabole des talents. Il s'agit de faire valoir les talents que Dieu nous a confiés. Celui qui avait reçu 5 talents, il y va, il fait valoir ses 5 talents et il en gagne 5 autres. Voyez ? Et finalement, là-dedans, à qui est-ce qu'on fait reproche ? À celui qui n'a rien fait avec son talent. Donc, avoir une ambition personnelle mesurée à la hauteur de ses talents, c'est tout à fait convenable et il faut le faire. Et ensuite, il faut savoir aussi accepter les positions de second. Et on a vraiment des beaux seconds dans la Bible. Et je dirais mon préféré, entre guillemets, c'est Jonathan. Je trouve que c'est très beau, son rapport avec David, en qui il a vu l'homme selon le cœur de Dieu, en qui il a vu l'homme compétent. Lui, Jonathan, il est le fils de Saül, donc légitimement, il peut aspirer à prendre la suite de son père, mais il comprend que ce n'est pas ça qu'il faut. Et donc, il va faire allégeance, en fait. « Tu règneras sur Israël, et moi, je serai le second après toi. » Et Saül, mon père, le sait aussi. Voilà. Il se met dans l'ombre de David pour être son second parce qu'il a su trouver en lui le bon leader. Et je trouve que c'est aussi un petit peu dans cet état d'esprit que les épouses chrétiennes peuvent accepter leur position de soumission. C'est un peu ça la soumission dans le couple, c'est accepter d'être le numéro 2 finalement. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Attention au féminisme qui veut absolument niveler tout et qui amène finalement un esprit de rébellion contre toute forme d'autorité et de hiérarchie. Non, il y a une belle carte à jouer dans la position de second dans le couple. Ou encore, ses compagnons de Paul, qui l'accompagnent pendant ses voyages, alors il y en a plusieurs, il y a Silas, il y a Timothée, puis il y en a encore une liste ici importante, dont l'un d'ailleurs s'appelle second. C'est intéressant, lui, vraiment, c'est le second professionnel, vous voyez. Il est là, il fait partie de l'équipe qui accompagne Paul. Accepter la deuxième place, accepter les seconds rôles. Voilà une belle attitude d'humilité dans le sens du service. Et même parfois obéir. Dans l'Église, parfois, il faut obéir. Voilà. Alors, il n'y a pas Dans l'Église, bien sûr, l'autorité suprême, c'est celle du Seigneur Jésus. C'est lui le chef de l'Église. Mais le Seigneur Jésus, il est invisible. Donc, il y a aussi une forme d'autorité déléguée au travers des conducteurs, des anciens de l'Église. Et parfois, si on veut que ça avance, il faut savoir obéir à ces anciens. Attention à l'esprit de rébellion qui amènerait à faire de l'Assemblée une sorte de démocratie où tout le monde a son mot à dire et finalement où tout est bloqué parce qu'un homme égale une voix. Non, obéissez à vos conducteurs, soyez soumis, ils veillent sur vos âmes, comme ayant à rendre compte, ils rendront compte, afin qu'ils fassent cela avec joie, non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable. Acceptez d'être commandé. Ce mal est un petit peu français. On est quand même dans un pays où on a l'impression qu'on n'a jamais fini notre révolution de 1789 et on a aujourd'hui quand même un parti qui s'appelle la France insoumise, qui fait presque 20% des voix. C'est quand même incroyable. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Et puis, si par les circonstances, on se trouve dans la position de numéro 1, eh bien, l'occuper, cette place, il faut l'occuper, mais il faut l'occuper dans un esprit de service. Quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque d'entre vous voudra devenir le premier sera l'esclave de tous. Voilà, assumez la première place dans un esprit de service. Et j'arrive à ma conclusion. On peut dire que, quelque part, l'esprit du monde, voilà son histoire. Il est né en Éden et il a été vaincu au désert. Dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont été tentés, on retrouve les trois éléments de 1 Jean chapitre 2, verset 15, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, puisque on lit que la femme vit que l'arbre était bon à manger, convoitise de la chair, qu'il était un plaisir pour les yeux, convoitise des yeux, et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Vous voyez, devenir intelligent, monter, grandir, être gagner du galon, l'orgueil de la vie. Et donc, l'homme et la femme tombent. Donc, on peut dire que là, l'esprit du monde entre dans le monde. Mais ensuite, il a été vaincu par le Seigneur Jésus, et c'est ce qui est frappant, dans un désert, non pas dans un jardin de délices, mais dans un désert, dans les conditions les plus difficiles. Puisque Satan lui dit dans un premier temps, si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains, nourris-toi, nourris ton ventre, vas-y. Ça c'est... Il essaie d'activer dans le cœur du Seigneur Jésus la convoitise de la chair, mais il n'y a pas de convoitise de la chair dans le cœur du Seigneur Jésus. Ensuite, il le transporte sur une fort haute montagne, il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Il essaie d'activer la convoitise des yeux, mais il n'y a pas de convoitise des yeux dans le cœur du Seigneur Jésus. Et puis encore, il l'amène en haut du temple et il lui dit, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains. Vas-y, montre que tu es le fils de Dieu, que les anges vont arriver tout de suite pour te secourir. Montre ta puissance, montre ton statut. Il essaie d'activer l'orgueil de la vie. Mais il n'y a pas d'orgueil de la vie dans le cœur du Seigneur Jésus. Donc, ne nous laissons pas animer par cet esprit du monde que le Seigneur Jésus a vaincu. Non à l'hédonisme, oui à la sobriété. Non au matérialisme, oui au contentement. Non au carriérisme, oui au service. La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement et justement et pieusement. Finalement, nous avons le choix entre deux modes de vie, deux états d'esprit, l'esprit du monde, qui est finalement de jouir le plus possible, de posséder le plus possible, de régner le plus possible, ou bien l'Esprit de Dieu qui verse en nous l'amour de Dieu et qui nous amène à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Et donc, nous pouvons suivre le Seigneur Jésus dans cette démarche d'amour qui consiste à aimer, toujours aimer, aimer Dieu et aimer notre prochain. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Tu fus, Seigneur Jésus, un homme sur la terre et l'humble serviteur des foules autour de toi. Tu vins, Seigneur Jésus, pour honorer ton Père. Tu fis sa volonté jusqu'à la croix. Oui, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, pas l'esprit du monde, mais l'esprit de Christ, par ton esprit, rends-moi semblable à toi.